Si Dieu aujourd'hui parle de la peur, c'est que Dieu sait qu'il y a des événements qui vont arriver, il y a des combats qui arrivent. Mais pour que nous soyons vainqueurs de ces combats, il va falloir que nous ne fuyons pas.
Les obstacles, c'est une force extérieure qui vient s'opposer à vous dans le but de vous empêcher de réaliser votre désir.
Il n'y a pas d'exploit sans guerre. Quand on parle d'exploit, c'est qu'on parle de lutte. C'est qu'on parle d'acharnement, c'est qu'on parle de guerre.
Notez ceci, peu de personnes voient en la défaite un appel urgent à redoubler d'efforts. C'est-à-dire, quand vous avez connu la défaite, ne vous dites pas que c'est la fin. La défaite vous lance un message, redouble d'efforts.
C'est une année où ce que nous aurons, nous allons l'obtenir au prix de notre victoire.
Enseignement numéro 4.
La semaine dernière, j'ai entamé le sujet sur la peur, mais j'ai parlé spécifiquement des origines de la peur. Et nous avons découvert en fait que la peur pouvait avoir pour origine notre environnement, c'est-à-dire l'endroit où nous vivons, nos amis, nos parents, nos collègues de travail, notre église, tout ce qui nous environne, les personnes, tant les endroits où nous sommes, le système dans lequel nous vivons, nos traditions et nos cultures peuvent être à l'origine de plusieurs peurs que nous manifestons dans notre âge adulte et qui peuvent être pour nous des sources de blocage. Alléluia. Et il est important pour chacun d'entre nous de faire un travail particulier et de découvrir d'où viennent les peurs que nous manifestons aujourd'hui, quelles en sont l'origine et comment nous en débarrasser. Parce que vous savez, au-delà du fait que nous disions en général que le début de la peur commence dans notre environnement, sachez que c'est beaucoup plus dans notre environnement parental que les peurs naissent. Parce que vous savez, lorsque nous naissons dans un environnement, dans une famille, c'est là où tout se décide, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, nous ne pouvons pas accuser nos parents que volontairement ils ont décidé de nous faire mal, non. Leur ignorance, leurs incapacités, leurs faiblesses nous ont conduits à avoir peur, mais je ne pense pas qu'un bon parent ait pour objectif de faire peur à son enfant. Plutôt, son désir est de pouvoir amener son enfant à maturité, mais comprenez que certaines de nos faiblesses et de nos défauts nous amènent quelquefois dans l'éducation de nos enfants. Bien que nous voulions lui faire du bien, nous amenons nos enfants à avoir très peur. Et ces peurs, inconsciemment, ce sont des éléments que le diable utilise plus tard quand nous allons devoir grandir et nous allons être confrontés à certains défis, à certaines réalités qui sont les nôtres et pour lesquelles nous devons surmonter. Et malheureusement, on aura l'impression qu'au-delà du nom de Jésus, de la puissance du Saint-Esprit que nous avons, au-delà de tous les atouts, tous les dons du Saint-Esprit que nous pouvons avoir, nous avons l'impression de ne pas dépasser un certain seuil, simplement parce que nous avons peur de quelque chose peut-être que nous ne voyons pas, quelque chose que nous ne maîtrisons pas, mais tout de même quelque chose qui existe. Alléluia. Et le deuxième élément, ou encore la deuxième raison, comme je le disais la dernière fois, qu'il y a deux raisons principales qui nous emmènent forcément à avoir peur. Notre environnement et évidemment le péché. Mais la partie relative au péché est assez longue, parce que nous allons nous rendre compte que le péché va entraîner énormément de choses. Déjà, le début de la religion, ce que nous appelons aujourd'hui religion, les différentes religions qui sont dans le monde, en général, ont leur origine de là. Parce que très souvent, la peur que nous allons découvrir, la naissance de la peur que nous allons découvrir au travers du péché, va amener l'homme à créer une religion pour le rapprocher davantage de Dieu. Nous allons aussi découvrir à la longue que cette peur du péché va nous amener à avoir peur des uns et des autres. Et cette peur des uns et des autres va nous conduire particulièrement dans ce qu'on appelle en fait la peur du rejet. Et cette peur du rejet va engendrer quelque chose de particulier qui va peut-être vous étonner, la personne que nous incarnons. Vous savez, de la même manière qu'on dit, l'homme en fait est constitué de trois personnes, l'esprit, l'âme et le corps, vous allez vous rendre compte qu'à la longue, le péché a développé aussi trois choses différentes de notre propre personne. Vous savez, très souvent, nous disons, c'est une personne de caractère. Très souvent on dit, vous voyez le caractère de cette personne. Très souvent on dit, est-ce que vous voyez la personnalité de cette personne? Et vous allez vous rendre compte que la peur des uns et des autres, la peur du rejet, va créer ou va susciter deux éléments autres d'un élément qui existe déjà. Parce que lorsqu'on nous voit, il y a un élément en nous qu'on appelle le tempérament. Et généralement, le tempérament, c'est l'essence même de notre personne, ce avec quoi nous sommes nés lorsque Dieu nous a créés. Il y a des personnes qui sont de tempérament battant, des personnes qui sont de tempérament un peu amorphe, des personnes un peu plus introspectives, c'est-à-dire qui sont internes, qui se cachent, qui ne se dévoilent pas. Et vous avez d'autres encore, le dernier, où les personnes sont beaucoup plus gaies. Voilà un peu les quatre tempéraments que Dieu lui-même a créés. Mais la peur du péché va développer autre chose, ce qu'on appelle aujourd'hui le caractère et une autre chose qu'on appelle encore la personnalité. Parce qu'il y a une différence entre le tempérament, le caractère et la personnalité. Et ça encore, c'est né à cause du péché. C'est né à cause de la peur des uns et des autres. C'est né à cause de la peur d'être rejeté. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de caractère, on parle en fait de notre tempérament initial influencé par les circonstances de la vie. Et lorsqu'on dira « telle personne a une personnalité », en fait, la personnalité ici représente le visage ou encore la carapace que nous nous sommes créés par rapport aux autres. Mais tout ça naît de quoi ? De la peur d'être rejeté. Et ensuite, nous verrons les différents sujets, les différents types de peurs générales auxquelles l'homme est confronté. Mais nous le verrons à la longue. Mais nous ne parlerons pas de ça peut-être aujourd'hui. Mais nous allons évoluer petit à petit. Mais pour mieux comprendre l'origine de la peur, qui est le péché, j'aimerais que nous ouvrons notre Bible dans Genèse chapitre 3. Les versets importants de cette partie de cet enseignement commencent du verset 7 et s'achèvent au verset 10. Ce sont un peu les versets de base sur lesquels nous allons devoir travailler ce soir. Alors je vais le lire de façon générale. La Bible dit... Les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors je n'ai pas pris le dessus du passage parce que nous savons tous que cette histoire ou encore ce passage est en fait la conséquence du péché. Quand Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors la Bible nous dit au verset 7, les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Verset 9, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et le verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alors, comme je l'ai inscrit dans mes notes, cette histoire illustre la deuxième origine de la peur, ou encore de nos peurs. Remarquez bien que l'histoire est belle. Dieu a mis deux personnes dans le jardin, et puis bon, finalement, pour avoir été séduite, Ève et Adam se sont retrouvés en train de commettre une désobéissance, en train de manger le fruit de l'arbre dont il leur avait été défendu de manger, et finalement se retrouvent dans une position où tout va mal. Et la Bible dit, et ça c'est ce qui m'importe, ce que la Bible dit, ils prirent conscience. Vous savez, lorsqu'on lit l'histoire, Adam et Ève n'avaient pas de problème avec Dieu. Dieu venait leur rendre visite, Dieu les consultait, Dieu s'amusait avec eux, Dieu bavardait avec eux. Tout était paix, tout était joie, tout était tranquillité. Mais à partir du moment où ils ont mangé de ce fruit, alors ils prennent conscience. Quelque chose se passe. Ils prirent conscience. Et ils prirent conscience de quoi? De fait qu'ils étaient nus. La Bible dit dans Genèse 2:25 que l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alors que s'est-il passé pour que maintenant, dans Genèse 3:7, ils aient honte et que dans Genèse 2:25, ils n'aient pas honte d'être nus? Que représente à ce moment précis la nudité? Que représente à ce moment précis la honte? Que s'est-il passé? Pourquoi ils en sont arrivés là? Comme on l'a souvent dit, c'est parce que lorsque Satan est venu les voir et qu'il leur a dit, non, ne vous inquiétez pas, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si Dieu vous empêche de le manger, c'est parce que Dieu sait que vous allez connaître le bien et le mal. En fait, que vous deviendrez son égal. Et eux, ignorant de ce qu'ils sont, ils commencent à manger le fruit, oubliant en fait qu'ils sont déjà Dieu, alors ils mangent quand même le fruit parce qu'ils espèrent devenir Dieu. Et quand ils mangent, ils se rendent compte, et c'est ce que la Bible exprime par « ils prirent conscience ». La Bible dit bien « ils prirent conscience qu'ils étaient nus ». Donc en fait, prise de conscience, leurs yeux s'ouvrent, alors ils comprennent que le diable les a roulés. que la connaissance du bien et du mal qu'ils cherchaient à obtenir est très, très loin d'eux. Et que la déité qui leur était déjà offerte, ils viennent de s'en séparer. Alors, comme ils disent, ils vont se confronter à l'humanité. De Dieu qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils vont devenir hommes. Ils réalisent. Que nous est-il arrivé? Dieu n'est plus là à côté. La preuve, c'est que quand ils viennent, ils se cachent. Ils sentent que quelque chose s'est coupé. Ils commencent à ressentir une chose qu'ils n'avaient jamais ressentie depuis le début de leur existence. La peur. Ils ont peur. Qu'est-ce qui est en train de tenir nos entrailles? C'est pourquoi, lorsque Dieu vient dans le jardin, comme cela est exprimé dans le verset 9, Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur. » Parce que je suis nu. Alors je me suis caché. La découverte de l'état de pécheur, la distance qui sépare le bien et le mal, l'incapacité maintenant à rejoindre la perfection divine, l'état d'innocence qu'ils avaient étant perdu, cette chose, cet état de fait va engendrer la peur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils auront maintenant peur. Et cette peur-là va les amener à se cacher de Dieu. Pourquoi Adam et Ève ont-ils eu peur? Parce qu'ils étaient nus. C'est quoi la nudité? La nudité ici, ce n'est pas uniquement l'aspect physique. Mais ici, moi, je veux parler de la nudité en termes bibliques. Et généralement, lorsqu'on parle de la nudité dans les termes bibliques, on ne peut pas parler de nudité sans faire allusion à la honte. Certains le disent, oui, parce qu'en général, être nu devant quelqu'un, ça nous gêne. Mais je ne voudrais pas que vous regardiez la honte du point de vue physique, parce que c'est gênant d'être nu devant le public. La raison pour laquelle, évidemment, nous avons des vêtements. Mais moi, je voulais parler de la honte. La honte ici exprime un déshonneur à l'adresse de quelqu'un. Si Adam et Ève ont ressenti la honte, c'est parce qu'ils étaient gênés du fait qu'ils avaient déshonoré Dieu. Ils étaient gênés du fait qu'ils avaient désobéi à Dieu. Que Dieu, malgré sa fidélité, était toujours là. Mais eux, pour avoir voulu faire une expérience, se sont retrouvés très loin de Dieu. À ce moment-là, ils se sont sentis faibles. Quand on parle de nudité, je vous assure, il faut que nous fassions attention. Lorsqu'on parle de nudité, pas la nudité physique, on parle du fait que nous soyons privés de ressources. Je suis nu veut dire je n'ai plus de ressources. Je vous parle selon les définitions bibliques, pas les définitions humaines. Parce que lorsque vous allez voir les dictionnaires, ils vont toujours vous ramener à la notion de nudité physique. Moi, je vous parle de la nudité spirituelle, la nudité selon le concept de Dieu. Quand Dieu dit que quelqu'un est aveugle et nu, ça veut dire que tu n'as plus de ressources. Tu es coupé de tout. Donc, lorsqu'ils pêchent, Adam et Ève réalisent un fait. Dieu ne sera plus leur ressource. Ils ne seront plus forts. Parce que être nu, c'est être totalement désarmé. On vous ôte ce qui fait votre force. Quand on dit que je suis nu, et ça c'est l'expression que nous connaissons la mieux, c'est lorsque nous sommes exposés. C'est-à-dire tout ce qui concerne notre vie, nos forces, nos faiblesses, nos défauts sont démontrés à la surface de la terre. Pour une fois dans leur vie, Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils ne valaient plus rien. Ils ne valaient plus rien. Alors, ils ont eu peur. Ils ne valaient plus rien. Leur séparation avec Dieu était un déshonneur. Dieu les a coupés de toute ressource. Dieu les a livrés. Et en fait, la dernière expression que veut dire nudité, ça veut dire être esclave. Ils se sont rendus esclaves du diable. Alors, tout commence. Tout commence là. Alléluia. Tout commence là. C'est cet état de fait qui va engendrer trois peurs. la peur du jugement de Dieu. Il se rend compte que là, les choses vont mal. Dieu va nous juger. Ça va être catastrophique. Ils ont une connaissance de Dieu. Ils savent ce dont Dieu est capable. Ils connaissent la puissance de Dieu. Ils connaissent son amour, mais en même temps, ils connaissent sa colère. Donc, quand ils se retrouvent dans cette situation, ils se disent, qu'adviendra-t-il de nous? Ils commencent à éprouver la peur du jugement. Et comme je le disais tantôt, c'est cette peur du jugement qui va engendrer aujourd'hui la religion. La religion. Comme je l'expliquais tout à l'heure, la nudité nous prive des ressources. Puisque nous serons privés des ressources, nous allons maintenant développer quelque chose qui ne devrait pas être. Comme je le disais tantôt, nous sommes maintenant à la recherche des biens alors que Dieu nous a déjà donné ces biens. Nous allons maintenant être à la recherche de l'approbation que nous avions déjà. Nous allons maintenant être à la recherche d'une position sociale que Dieu nous avait déjà donnée. Nous allons être à la recherche de l'argent que Dieu a entre ses mains et qui est en plein partout sous le sol dans lequel nous vivions. Nous allons maintenant être à la recherche de l'approbation des hommes que nous avions déjà à cause de notre déité. Et que fait la religion aujourd'hui? La religion ne vient pas pour régler nos problèmes profonds. La religion vient pour nous aider à répondre aux besoins basiques. Comment avoir une maison? Comment avoir une voiture? Remarquez que dans toutes les religions du monde, on ne vous parle que de ça. Mais personne ne prend le temps de vous dire comment vous rapprocher de Dieu. Parce que les hommes sont à la recherche d'un Dieu, voulaient ressentir cette déité, voulaient à nouveau la vivre, alors ils ont créé la religion, ils ont créé des normes, des dogmes. Même le judaïsme est une religion humaine. Pour Jésus, lorsqu'il s'exprime dans les évangiles, il dit, la religion consiste à donner à manger aux pauvres et aux démunis. Ça, c'est la religion selon Dieu. Le christianisme n'est pas une religion, c'est un style de vie. C'est pourquoi je dis, la peur du jugement de Dieu va faire naître des religions, va faire naître des doctrines comme on en voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des démons. Toute la responsabilité de nos échecs sont mis sur les démons. Toute la responsabilité de nos échecs sont mis sur les esprits. Qui l'a dit? D'où le développement des églises que de délivrance, de délivrance, de délivrance, de délivrance. Où est le message de l'évangile? Et après, quand on a fini de vous délivrer, vous restez le même. Rien n'a changer. Parce qu'en fait, la religion est une utopie. On va chez nos frères catholiques. Non, il n'y a pas de problème. Si tu as péché, viens, on va faire l'extrême onction et tu iras au purgatoire. Quel purgatoire? Tu iras chez les bouddhistes, ils vont te dire, il faut te concentrer, il faut faire je ne sais pas trop quoi. Et puis après, tu vas mourir et tu auras une réincarnation. Et si ta consécration est sérieuse, tu seras aux yeux de Dieu quelque chose de bien. Mais c'est du n'importe quoi, c'est du pipeau. C'est la recherche de la déité qui amène l'homme à créer des religions. Pourquoi? Parce que nous avons peur du jugement de Dieu. La deuxième crainte, la deuxième peur auquel est confronté l'homme, c'est la peur du regard des autres. Et la troisième, la peur de l'échec. J'aimerais que nous revenions encore au verset 7. Nous repartons sur la peur du jugement. La Bible dit, les yeux de tous deux s'ouvrirent et prirent conscience. Ensuite, la deuxième partie du verset dit, ils se firent des ceintures. Verset 7 de Genèse 3. Le verset 8 dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher devant l'Éternel parmi les arbres du jardin. Il y a des expressions que nous allons retenir pour mieux vous expliquer le jugement de Dieu, la peur du jugement de Dieu. Et le verset 10 dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Première expression importante, ils prirent conscience. Prendre conscience, c'est quoi? C'est la connaissance d'un fait important, la connaissance d'un fait vital, d'un principe nécessaire à notre développement. Donc, ils se rendent compte, ils réalisent, sans Dieu, ils ne peuvent rien. L'environnement qui est le leur, c'est Dieu, pas autre chose. Alors, ils se disent, si Dieu n'est plus ma ressource, si Dieu n'est plus mon maître, que vais-je devenir? Cela a fait en sorte que quand ils se rendent compte, quand ils prennent conscience, ils disent, nous sommes nus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont coudre une ceinture avec des feuilles de figuier. La première réaction que tout homme ou toute femme a lorsque sa nudité est exposée, c'est de se couvrir et de se cacher. N'est-ce pas? Mais généralement, ce réflexe est très mal fait. Remarquez que là, eux-mêmes, quand ils cousent au verset 7, ils cousent une ceinture. Quand Dieu vient au verset 21, la Bible dit, il leur coud des vêtements de peau. La ceinture, c'est là. À la limite, on peut donner une représentation comme un cache-sexe. D'où Tarzan. Juste pour vous amuser. Des caches-sexes. Ils sont là. Ils cachent ce qui semble être pour eux important. Souvent, lorsque nous nous trouvons dénudés, qu'est-ce qu'on fait? On cache ce qui est important. Et on le cache comment? On le cache très mal. Vous savez comment on le cache? En développant une personnalité qui n'est pas la nôtre. En développant des apparences. En développant des qualités qui ne sont pas nôtres. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que les gens sachent quels sont mes défauts et quelles sont mes faiblesses. Il faut que je paraisse toujours comme une femme ou un homme fort. Vous savez pourquoi? Parce que votre nature divine vous a toujours rendu fort. Donc personne ne doit voir votre faiblesse. Et on passe son temps à créer des apparences. On passe son temps à se créer des carapaces. Et c'est là, comme je le disais tout à l'heure, on va développer des personnalités qui ne sont pas les nôtres. Vous allez voir quelqu'un qui est trop dur, 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 dur. Derrière la dureté là, se cache une faiblesse, se cache un défaut. Samuel Azakosion disait, quand vous voyez un homme de Dieu pointer trop longtemps le doigt sur un péché, c'est qu'il cache ce péché dans sa propre vie. Ce n'est pas très faux. Quand vous allez voir quelqu'un, et ça nous le verrons, mais j'anticipe déjà sur la peur des autres. Quand vous allez voir des gens qui sont constamment gentils, 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 trop serviables, posez-vous des questions. Il y a une peur derrière cette serviabilité. Je vous présenterai ça, si Dieu permet ce soir, sous les différentes facettes de la peur des autres. Vous voyez quelqu'un trop calme. Oh, elle est timide. La timidité est timidité. Mais cela cache quoi? Des faiblesses. On veut cacher derrière ce personnage de femme forte, de femme aimable, de femme serviable, d'homme fort, d'homme robuste, d'homme caractériel, un défaut, des faiblesses. Parce que nous avons peur constamment d'être confrontés à notre humanité. Chaque jour que Dieu fait, l'homme poursuit sa déité. Personne ne va être. Personne. On va se fabriquer des vêtements. On va se fabriquer des vêtements. On va se fabriquer des apparences. Mais en fait, qui ne montre pas en fait qui nous sommes. Et cela va nous amener à développer la peur d'être rejeté. On va tout faire parce qu'on a déjà peur. Le fait que Dieu, on ait l'impression que Dieu nous a rejetés, ce qui n'est pas vrai, mais on a l'impression que Dieu nous a rejetés, n'est pas supportable pour nous. Mais en plus, que l'homme ou la femme qui soit à côté de nous nous rejette, c'est difficile. C'est pourquoi lorsque vous voyez la réaction d'Adam et Ève, Adam et Ève ont eu peur de Dieu, mais ils ont eu peur l'un de l'autre. Parce que dans Genèse 2, 25, on dit, les deux étaient nus et ils n'en avaient point honte. Mais au verset 7, chapitre 3, on dit, les deux ont cousu ensemble des ceintures. Ça veut dire qu'à un moment donné, au-delà de la peur du regard de Dieu, chacun d'eux maintenant avait des doutes l'un vis-à-vis de l'autre. Ils avaient honte de leur nudité. S'ils n'avaient pas honte de leur nudité, ils n'auraient pas fait de ceinture de feuilles de figuier. Mais s'ils ont fait, chacun pour leur part, c'est parce que maintenant était née la peur de l'un et de l'autre. Adam ne doit pas me voir comme je suis. Ève ne doit pas me voir telle que je suis. Et la suite, c'est qu'ils sont allés se cacher. Mais ils se sont cachés derrière quoi? Parmi les arbres du jardin pour ne pas être vu de Dieu. Vous voyez, c'est tellement amusant. Dieu est partout. Et ils vont se cacher derrière quoi? Des arbres. Même nous-mêmes, les humains, on arrive à voir quelqu'un qui se cache derrière un arbre. À plus forte raison, Dieu qui est au-dessus. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que Dieu voit les hommes tels qu'ils sont. Et avec tous nos problèmes. Le vêtement d'apparence ne suffit pas. Le vêtement religieux ne suffit pas pour nous cacher. Et les arbres derrière lesquels nous nous cachons ne suffisent pas. En général, les arbres, c'est quoi? La piété, l'activisme, le sacrifice, l'esprit religieux, tout ça parce qu'on veut plaire à Dieu. Pour qu'à nouveau Dieu ait un regard sur notre vie. c'est faux. Quand vous voyez des gens actifs, il y a quelque chose qui se cache derrière. Parce que Dieu est un Dieu équilibré. Sachez que chaque fois que Dieu descendra dans notre vie, sa présence se fera sentir. Toujours est-il que nous allons remarquer que Dieu est grand et nous, nous sommes petits. Pourquoi? Parce que nous avons troqué, pour vouloir tester, nous avons troqué notre déité pour l'humanité. Et c'est ce que le diable n'avait pas dit à Adam et Ève. La Bible dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu nous voit partout où nous sommes, rien ne peut se cacher de lui. Alléluia.
Amen.
Amen. Les hommes font des ceintures de feuilles de figuier. Mais Dieu, au verset 21, vient et il nous couvre des peaux. Vous savez, si Adam et Ève avaient été assez intelligents, ils se seraient rendus compte que c'est vrai que Dieu s'est fâché, mais Dieu était là. Parce que si Dieu était fâché à la réaction des hommes, mais mon Dieu, Dieu serait parti. Mais Dieu prend quand même la peine de tuer des animaux, de leur arracher la peau et de leur faire des vêtements. Cela veut dire que Dieu veut que les choses changent. Tout de suite, Dieu est en train de leur dire, revenez à moi. C'est simple, revenez, excusez-vous et tout va être rétabli. Mais ils n'avaient rien compris. Ils avaient tellement peur. Ils avaient oublié le Dieu du jardin d'Éden à cause de la connaissance du bien et du mal. Le raisonnement. Je l'ai enseigné ici. La connaissance du bien et du mal conduit au raisonnement. Il n'était plus simple. Aujourd'hui, Dieu veut toujours nous couvrir. Et c'est la raison pour laquelle il parle de la peur. Le vêtement de Dieu, ce n'est pas de nous donner des apparences, mais le vêtement de Dieu, c'est de nous permettre d'être ce que nous devons être en nous confrontant à la vérité de notre vie, en nous confrontant à la vérité de la parole. Mais tant que nous, les chrétiens, nous n'acceptons pas ça, nous ne pourrons jamais nous séparer de cette peur du jugement de Dieu. Si les chrétiens ont encore peur du jugement de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas encore accepté le vêtement que Dieu leur a donné. Quel est le vêtement que Dieu nous a donné? Le sacrifice de Jésus. Quel vêtement nous a-t-il donné? La foi. Quel vêtement nous a-t-il donné? La capacité d'entrer dans le lieu très saint sans avoir d'intermédiaire, mais de le voir vis-à-vis et d'être capable de lui dire, Seigneur, je m'humilie devant toi. Quel vêtement Dieu nous donne-t-il? C'est de nous mettre face à la vérité des Écritures et nous conformer aux Écritures de façon à ce que notre sainteté nous permette à nouveau de récupérer notre déité et de nous retrouver dans l'Éden. Aujourd'hui, l'Éden, ça existe. Mais l'Éden est spécifique à chacun d'entre nous. C'est notre manière de gérer notre peur, d'y croire ou de n'y pas croire, qui va faire que notre vie soit pour nous un jardin d'Éden ou pas. Le jardin d'Éden, ce n'est pas communautaire en ce moment. Sous l'alliance dans laquelle nous sommes, le jardin d'Éden est spécifique à chacun d'entre nous. Il n'y a pas de jardin d'Éden commun à monsieur et madame Piébi. Il y a un jardin d'Éden pour monsieur Piébi, il y a un jardin d'Éden pour madame Piébi. Maintenant, chacun d'entre nous vivrons l'Éden en fonction de notre décision à nous confronter à la peur ou à laisser la peur nous dominer. Nous devons revêtir l'homme nouveau. Nous devons revêtir les armes de Dieu. Nous devons revêtir Christ. C'est ça le vêtement que Dieu nous donne. Nous avons peur du jugement. Mais le comble, c'est que malgré la peur que nous avons du jugement, nous passons quand même notre vie à tout faire pour créer des apparences qui ne reflètent pas la véritable personne que nous sommes. J'ai eu peur. Vous savez, quand on a déjà peur, comme on l'exprime si bien, la peur, comme je le disais, est une émotion anticipative, c'est-à-dire elle nous amène à déjà voir de loin et à ressentir de loin un danger. Donc quand Adam dit « j'ai eu peur », c'est qu'il pressentait déjà le danger. Mais Dieu veut enlever ça dans notre vie. Pourquoi avez-vous peur alors que vous avez Dieu pour père? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La peur est donc devenue une chose naturelle et universelle, mais sa gestion et son intensité sont les éléments qui peuvent rendre cette peur problématique. Si nous ne savons pas gérer nos peurs, si nous les laissons prendre ou dominer notre vie, alors les problèmes commencent pour nous. Parce que la peur n'est pas toujours un élément néfaste. la peur aussi peut être, comment on appelle ça, avantageuse pour certains d'entre nous. Comme je le disais la dernière fois, c'est quand on a peur justement qu'on développe les instincts de survie. Si on n'a pas peur, on ne peut pas développer d'instinct de survie. On ne peut pas développer de courage. C'est parce qu'on a peur justement qu'on deviendra courageux. Quel est le père qui verra son enfant être agressé, même s'il sait qu'il est freloqué? Qu'est-ce qu'il va faire? Déjà même, pour paraître devant ses enfants, il sera obligé de jouer au Rambo. Mais quand il va jouer au Rambo, à cause de la peur qu'il a, il y a quelque chose qui va naître. Moi, est-ce que c'est faux? C'est pas faux. Quelle est la femme, aussi mince qu'elle soit-il, aussi faible soit-elle, qui voit des agresseurs, qui ne va pas se débattre? Elle se débattra même s'ils finissent, mais elle va d'abord se débattre. Comme on a l'habitude de dire, je laisserai quand même ma marque et tous les jours de sa vie se rappellera quand même que. Quel est l'enfant qui est face à un grand garçon qui vient lui arracher son goûter? Vous avez déjà vu un enfant qui tient à son goûter, quelqu'un vient le lui arracher tous les jours. Mais à un moment donné, le petit là, aussi petit soit-il, va dire, j'en ai marre. Hein? Et le jour où il va vous bastonner, le géant qui lui prend son goûter, les gens seront étonnés. Mais ce n'est pas parce qu'il est fort, c'est parce qu'il en a eu marre, il est fatigué d'avoir peur. Ah, donc à cause de ça, allez, boum! Il faut que je le rentre. Et ça se termine comme ça. Et on est étonné de voir, évidemment, des bouts de choux comme David détrôner des Goliaths. La peur. Alléluia. Donc, voilà. Le péché a entraîné la peur du jugement. Tout le monde a peur d'être jugé. Même d'un point de vue général, allez dans la rue. Quand vous sortez le matin, pourquoi vous vous habillez bien? Si, par exemple, on vient vous dire, « Oh, ta tenue a un trou. » Regardez votre attitude. Même si ce n'est pas un trou visible, toute votre démarche va être fonction du trou. C'est comme si le trou était énorme dans la jupe ou dans le pantalon, alors qu'il faut vraiment se rapprocher, être attentif pour se rendre compte qu'il y a un trou. Mais comme on vous a dit, il y a un trou. Ah, l'homme ne supporte plus la nudité. Donc toute la démarche sera, soyons honnêtes, toute votre démarche, votre façon de faire, si vous avez l'habitude d'être assez nonchalante, dans votre, vous allez maintenant. Ma soeur, pourquoi tu marches vite le matin? Tu as des soucis? Non, on t'a dit qu'il y a un petit trou. La peur de la nudité. La peur d'être jugée à cause de ce trou. La peur que l'on dise, ah mon Dieu, regardez comme elle est pauvre, elle aussi, elle est sale. Vous avez peur d'être jugée. C'est pourquoi vous passez tout votre temps à être beau. Même si vous n'avez rien, vous êtes beau. Même si vous n'avez pas de maison, vous préférez acheter un 4x4. Parce que vous avez peur d'être jugée. Que l'on dise, oh lui aussi. Depuis là, il ne peut pas s'acheter une voiture. C'est une forme de jugement. Et vous pensez que derrière les paroles qui sont dites par vos frères et vos sœurs, Dieu se cache derrière. Et dans tout ce que vous faites, vous allez tout faire pour prouver. Non seulement aux hommes, et par la même occasion, prouver à Dieu que vous êtes capable. La peur du jugement de Dieu. Comme je le disais, la deuxième grande peur qui naît du péché, c'est la peur du regard des autres. Comme nous l'avons vu, Adam, après tous ces événements, a développé une peur. La peur vis-à-vis de Dieu, c'est pourquoi il se cache. Et la peur vis-à-vis de Ève, c'est pourquoi il se fait une ceinture de feuilles. Il a peur. Et j'écrivais dans mes notes que la conscience du regard de l'autre s'est développée depuis l'histoire de l'humanité. Mais cette peur va conditionner nos relations humaines. Et tant qu'elle ne sera pas réglée, nous n'aurons pas des relations justes et saines, harmonieuses et épanouies. On sera toujours en train de se mentir, même quand on se marie. Le désir est d'être pur devant notre partenaire. Mais la marque du péché va nous amener tôt ou tard à mentir et à tricher. Parce qu'on a peur que notre partenaire nous juge. On a peur de ce que notre partenaire pense de nous. Et que si nous ne sommes pas à la hauteur, si Dieu nous a déjà rejetés, si encore mon partenaire me rejette, je vais faire comment? La conscience du regard d'autrui est peut-être bénéfique et peut nous conduire à nous dépasser si évidemment nous voulons susciter l'admiration. Mais d'un autre côté, elle est handicapante. Elle nous freine, elle nous bloque dans toutes nos entreprises. C'est ce qui explique que pour ceux qui ont un excès de timidité, ils ne pourront rien faire parce qu'ils auront perdu. Qu'en dira-t-on? C'est pourquoi vous pouvez remarquer, vous vivez avec des hommes, vous avez un homme, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Frère, tu n'es pas encore marié. Non. Pourquoi tu n'es pas encore marié? Je cherche. Quelquefois, je cherche là. Ce n'est pas qu'il n'a pas trouvé. Il a déjà trouvé. Mais ce qui l'empêche de pouvoir être marié, c'est qu'il a peur de ce que dira cette jeune fille quand elle va découvrir qui il est dans les liens du mariage. La peur du regard des autres.
Pour la suite de votre étude, veuillez insérer le CD numéro 7. En espérant que ce message vous a été en bénédiction, nous vous encourageons à vous procurer le catalogue de nos productions audiovisuelles au numéro suivant 00 241 07 29 68 47 et au 00 241 07 39 82 79 ou à l'adresse email suivante missionjcr@yahoo.fr. Merci et que Dieu vous bénisse.